et vous écoutez France Culture. Et maintenant, regardons-les souffrir, Bernard Quirini. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui est heureux ce soir de recevoir le romancier, critique et novelliste Bernard Quirini. Et ce, à l'occasion de la sortie aux éditions Rivage de son dernier roman, L'affaire Meyerling, que les propriétaires déménagent, c'est dans leur nature. Mais quand c'est à la maison elle-même d'aller de travers et au béton de sombrer dans la folie, cela devient beaucoup plus inquiétant et incontrôlable. Dans le sillage de Charlie Jackson, Ballard, Topor et Marcel Aimé, le Meyerling de Quirini explore le conflit ouvert et sanglant entre une résidence de grand standing et ses résidents. Évocation également dans cette première émission de 2018 de quelques nouveautés, dont l'actuelle exposition du photographe Arnaud Baumann. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui vous présente bien évidemment en ce 6 janvier 2018, eh bien, ses meilleurs vœux pour l'année à venir, une bien mauvaise genresquement année, une bien bonne année, mauvais genre à toutes et à tous qui nous écoutez tous les samedis ou un samedi de ci, de là. Je serai donc pour cette première émission de l'année entouré de Bernard Quirini, notre invité, bonsoir.
Bonsoir.
Bernard Quirini, la dernière fois que vous êtes venu nous voir, c'était pour Le Village
Évanoui,
qui était déjà une histoire extrêmement singulière de topographie communale et de ce qu'il arrivait, non pas à un seul immeuble, mais là à une entité urbaine. Et là, vous avez d'une certaine façon un peu taillé la route ou les...
Bah, oui, j'ai fait un roman de la ville après un roman de la campagne.
Voilà, c'est ça. On est passé à la ville. Également un très étonnant livre sur Henri de Régnier, dont on peut dire quelques mots.
Oui, Monsieur Spleen, Henri de Régnier, qui était une personnalité de la vie littéraire de la fin du 19e et du début du 20e jusqu'aux années 30, même s'il est passé de mode à partir de la Première Guerre mondiale. Et c'est un second couteau magnifique, un auteur extrêmement attachant qui a aussi été l'un des plus grands cocus de la littérature française, puisque son épouse, Marie de Régnier, a fréquenté à peu près tout ce qui était fréquentable dans son époque, des deux sexes d'ailleurs, une personnalité éminemment respectable elle aussi.
Très bien, et mauvais genre, donc bah, écoutez, soyez le bienvenu donc Bernard Quirini pour ce livre, L'affaire Meyerling, qui paraît chez Rivage, et vous allez être livré aux questions de Jean-Luc Rivera, tous mes voeux, cher maître.
Merci François, bonsoir.
Voilà, qui s'est aventuré aussi dans les corridors, les caves et les escaliers hantés de Meyerling pour nous en parler. Vous parlerez également d'un ouvrage de Jean-Luc Marcastel.
Un pape pour l'apocalypse.
Bah, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Il est là, il est avec nous. Il s'appelle Pacôme Thielman.
Pacôme Ier.
Le pape Pacôme.
Antipape, alors.
L'antipape Pacôme. Élu à la tête de l'église gnostique.
Oui, voilà, oui. La fameuse église gnostique de France, qui est pas exactement ma référence en matière de gnosticisme, mais bon, quoi.
J'imagine d'ailleurs le French Tour de la
victoire des 100 rois.
La victoire des 100 rois est achevée.
En fait, il est achevé, mais comme tout ce qui est terminé, il en reste encore une date. Enfin, quoi, il était achevé en décembre, mais début février, je vais aussi faire une présentation à Lille. Ah, donc bon, là, quand c'est fini, il y en a toujours encore, il reste toujours une goutte. Bon, bonne année à tous.
Bonne année à tous, et de même, je le répète également, avec cette affaire Meyerling. Mais avant cela, bien sûr, l'ouverture, tous mes voeux, chère Céline, tous mes voeux. Donc
François,
l'ouverture solennelle de cette première encyclopédie pratique des mauvais genres de 2018. Et là, ce soir, avec qui sommes-nous ?
Je propose une double lettre, un nom composé, JP comme joie panique.
C'était la nuit, on était toutes les deux dans la rue, il faisait très très froid et sur les capots de voitures enneigées, on a tracé l'une et l'autre, on ne sait plus laquelle a fait quoi, une bite et un cœur, et ça a donné notre emblème.
Donc c'est l'acte fondateur de Joie Panique, à partir de ce dessin dans la neige, on a créé notre emblème et la maison d'édition est née ce jour-là.
Joie Panique, deux mots qui représentent la dualité et la complémentarité de deux femmes, Carole Gavaggio et Célia Michel. Deux inséparables qui viennent de créer leur maison d'édition, Joie Panique. panique. Le principe, des livres entièrement consacrés à l'image, déclinés sur un thème. Et pour commencer, deux volumes. Le premier s'intitule « Botanique », livre à la couverture vert tendre qui, au fil des pages, nous plonge dans la luxuriance de forêts profondes, dans des jungles organiques, composées de mailles tubulaires, de fusions saphiques ou de plantes toxiques. Le deuxième volume, « Rouge framboise », s'intitule « Baiser », un mot décliné et dessiné par 26 artistes qui donne lieu à un festival de langues mêlées, de salives échangées, de poésie de tête inclinée et de désirs savourés.
Oui, l'imagination s'emballe déjà à chaque réception de dessin parce que on voit ce que l'artiste, ou on ne sait pas, ou on invente ce que l'artiste a voulu y mettre, on y met nous-mêmes des choses. Et le fait, effectivement, d'étaler ces baisers par terre, de les assembler, d'essayer de faire qu'ils dialoguent entre eux, qu'ils se répondent, leur fait aussi prendre une autre dimension et du coup leur donne une force particulière. Le premier baiser, c'est celui dans le livre de Julien Paco, c'est un nuage qui embrasse un homme. C'est la galaxie, l'univers. C'est...
Oui, il y a l'universalité du baiser. Effectivement, on commence peut-être par ça, par le côté universel qui se rattache à l'univers et au cosmos, peut-être.
Le deuxième baiser, ce sont des couples aux traits noirs, très fins. C'est Chloé Bourguignon, des couples enlacés qui, on ne sait pas à quel moment on les saisit, s'il s'agit d'une séparation, d'un premier baiser, de baiser d'adieu ou de rencontre.
Oui, on ne sait pas à quel moment de leur histoire on arrive. C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'effectivement, on ne sait pas où leur couple en est. On a l'impression qu'on peut inventer des histoires.
Et un troisième, une aquarelle de Joël Hubeau, Panic Kissing Quator, qui représente aussi, je trouve, vraiment Joie Panique, qu'il a créée pour nous, où on a à la fois l'organique, la salive, une sculpture, des langues mêlées, ce côté épidémique qui est ajouté, qui est propre à son œuvre de prolifération, d'addition et un mélange à la fois très beau et orgasmique.
Et une invention au niveau des mots qui nous emmène dans mille endroits, vraiment des mots dans l'image qui nous parlent beaucoup. Hydre, Papillae, Infinite Organic Salivary Sculpture, Twisted Winding, Glotte, Gasm, Glosso, Chimère, Jewelry of Secretion, Déglutition Glossienne, Gornoneon, Méduse, Panic Kissing Quator.
Tous ces baisers sont à retrouver et à partager grâce aux éditions Joie Panique. Un thème, une trentaine d'artistes, toute la place à l'image. Avec notamment les dessins de Christelle Hainaut, Céline Guichard, Stéphane Blanquet, Nine Antico, Philippe Narcisse, Séverine Galliardo, Alexandra Walizewska, pour ne citer que. Botanique et baisers sont publiés aux éditions Joie Panique, à retrouver en librairie ou sur le site internet joiepanique.com.
Merci Céline pour cette première encyclopédie pratique des mauvais genres de 2018 consacrée donc à Joie Panique. Bernard Quirini, quelques réactions joyeuses et paniquées sur cette belle production éditoriale.
J'admire le logo, je jetterai un œil attentif à ce qu'il y a à l'intérieur.
Voilà, Paco Mtielman est en train, lui, de jeter un coup d'œil attentif.
Ah bah oui, parce qu'il y a plein d'artistes que je connais et que j'aime dedans, mais je ne connaissais pas du tout ces éditions. J'ai vu Blanquet, j'ai vu... attendez que je vous dise... ils sont là, oui, Philippe Dupuis, bien sûr, c'est magnifique, Paquito Bolino, évidemment, Nine Antico, évidemment, ça a l'air magnifique, Joël Hubeau, évidemment, et puis tous ceux que je ne connais pas qui ont l'air encore mieux.
Joie Panique, mais avant cela, eh bien, évidemment, nous allons... Après cette évocation, Céline, nous allons nous propulser, enfin, tenter d'en savoir un peu plus sur les mystères de l'affaire Meyerling.
«
Un nouvel être est né, le Meyerling. 5000 mètres cubes de béton, 300 tonnes d'acier, 150 fenêtres et porte-fenêtres, 300 portes intérieures, 1500 mètres carrés de façade isolée, 200 mètres carrés de garde-corps au balcon, 1000 plaques de cloison, 250 plaques de doublage isolant pour plafond, 700 plaques de doublage isolant pour les murs, 6 km de tables câbles électriques, 2000 prises et interrupteurs. Et une âme noire, cachée là-dedans, dont on ignore la taille et le poids. Voilà un extrait donc de l'affaire Meyerling de notre invité de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture, Bernard Quirini, qui donne bien, Bernard Quirini, les deux pôles un petit peu de ce roman, à la fois l'aspect technique, parce que c'est un roman extrêmement technique, et on imagine que vous avez dû travailler solidement le dossier de l'immobilier, de la construction immobilière, de l'aménagement intérieur et extérieur, et puis une âme noire, parce qu'à l'intérieur de cet univers qui semble totalement maîtrisé, d'artefacts, eh bien, il y a une âme noire, donc on a les deux pôles.
Ouais, alors pour l'aspect technique, il faut que je sois tout à fait honnête avec vous. Je suis heureux que vous disiez ça parce que ça prouve que je fais illusion. Il faudrait peut-être pas qu'un spécialiste s'en approche de trop près non plus, parce que en réalité, ce sont des choses auxquelles je ne connais absolument rien. Mais il était utile, nécessaire pour la coloration que je voulais donner au livre, voilà, de multiplier les détails techniques et les choses extrêmement pratiques, que ce soit dans tous les aspects qui concernent la construction de l'immeuble ou dans la deuxième partie du roman, que ce soit tous les moyens techniques extrêmement sophistiqués que vont employer les résidents pour essayer de faire la peau à leur immeuble. Où là, pour le coup, oui, j'ai effectivement travaillé, j'ai découvert plein de choses sur les méthodes de démolition, notamment.
Mais oui, alors là, c'est pareil, on a droit à un festival du lexique technique de la démolition tout à fait savoureux. Enfin, quand même, à l'image d'un des personnages de Meyerling, Bernard Quirini, qui s'appelle Braque, vous avez dû collectionner les dépliants, les
oui, alors ça, ça faisait longtemps.
Plaquettes d'entreprise.
Oui, ça faisait longtemps. Je m'intéresse au... On voit toujours ça quand on se prend dans la rue, qu'on passe devant une agence immobilière ou un promoteur, vous avez ces publicités pour des programmes de construction en cours. Et ce qui est très étonnant, c'est que où que vous soyez en France et peut-être même dans le monde, ils se ressemblent tous. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement les mêmes personnages qui sont dans les mêmes positions. Vous avez toujours un couple avec une poussette, ils ont tous un pullover noué autour du cou. Et puis il y a toujours une personne âgée.
Élégant mais décontracté.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis quelqu'un qui est en train d'arroser ses plantes vertes au balcon. Et je me suis demander si c'était pas les mêmes personnages secondaires qui allaient d'agence en agence partout en France. C'est un genre très codifié. Je ne sais pas qui dessine, si c'est un métier, ou bien est-ce que c'est les architectes qui font eux-mêmes, j'en sais rien. Mais je trouve ça très intéressant. Ça en dit long sur l'image du bonheur qui est associée à ce genre de publicité. Et voilà, l'espèce de codification. Voilà, c'est un genre en soi et je trouve que personne ne s'est jamais fait la remarque, alors je l'ai faite.
Alors le précédent ouvrage qui était dans une catégorie assez identique, une sorte de fantastique lié au lieu et lié aux constructions, c'était donc ce village dont vous aviez, qui était sous une cloche et qui disparaissait, dont on ne pouvait sortir. Et là, c'est Meyerling qui raconte l'histoire. Alors, c'est plus que l'histoire de l'affrontement entre un immeuble et ses résidents. C'est l'histoire d'un lieu au travers de ses différentes mutations et réquisitions historiques. Donc, cet espace de terrain à l'intérieur d'une petite capitale provinciale, qu'est-il devenu au travers du temps ? Et puis tout aboutit, non pas à un beau livre, mais à un bel immeuble tout frais, tout flambant neuf, qui ne demande qu'à être habité, acheté, loti et tout ce qu'on veut. Et puis on voit ce qu'il en advint, comme on dit. Mais on va partir, si vous le voulez bien, à Bernard Quirini, par d'abord le titre, l'affaire Meyerling. Jusqu'à vous, Meyerling, c'était le nom d'un fait divers impérial qui a eu lieu le 30 janvier 1899 en Autriche, où l'héritier du trône se suicide de nuit avec sa maîtresse. Et c'est devenu, le symbole, je veux dire, de la tragédie historique et du fait divers 4 étoiles qui fait la joie de tous les magazines et de toutes les magazines à la fois publiés, toutes les publications de ce type. Le nom de Meyerling, ensuite, ce suicide ayant eu lieu dans un pavillon de chasse après les Habsbourg en ont fait un monastère pour expier ce crime épouvantable, à la fois de se suicider, on ne se suicide pas quand on est un futur empereur. Le mot de Meyerling, vous, dès le départ, vous a magnétisé, aimanté, vous aviez un rapport privilégié avec Meyerling, ou c'est son côté funeste qui vous a attiré?
Le premier élément, bon, il y a toujours une part de hasard dans l'onomastique, à mon avis, dans les romans, c'est-à-dire que vous écrivez un roman, il vous faut un nom pour un personnage ou pour un lieu, et vous prenez le premier qui vous passe par la tête. Parfois, vous le conservez à la fin, parfois, vous corrigez, notamment quand vous avez pris le nom propre d'une personne qui vous est proche ou qui est encore vivante et qui pourrait vous faire un procès. Bon, pourquoi j'ai pensé à Meyerling, je n'en sais rien. Il y a sans doute une part qui est liée à la qualité sonore du mot, qui est quand même agréable à prononcer.
Ah, qui est magnifique.
Agréable à lire.
Meyerling.
Qui est assez évocatoire. Et puis, il génère toute une sorte d'imaginaire immédiat, alors extrêmement confus en même temps, mais enfin, il y a un côté un peu gothique, un peu forêt sombre, un peu lugubre, un peu suicidaire, un peu fou, qui fait que tout ça entrait assez bien en résonance avec ce que je voulais raconter. Donc j'ai utilisé ce mot dès le début, pour désigner le nom de la rue où est construit l'immeuble qui prend ce nom, parce que les immeubles ont des noms. Hein. Mmh. Et puis je l'ai conservé parce que je trouve que ça sonne bien.
Jean-Luc Rivera.
Oui, et puis quelque part, Meyerling, c'est le début de la fin d'un monde, hein, du monde du 19e siècle, du monde traditionnel. Et à travers tout votre roman, vous montrez bien il y a une sorte de, comment dirais-je, de critique, et vous montrez comment le monde ancien, l'habitat traditionnel de pierre, etc., qu'aiment d'ailleurs certains des habitants du Meyerling, est remplacé petit à petit par ces grandes barres de béton.
Oui, c'est vrai, je m'étais pas fait la remarque, mais il y a effectivement un côté crépusculaire. Voilà, le Meyerling est un mot très crépusculaire, oui. Crépuscule d'une civilisation, comme vous le dites, crépuscule d'un mode de vie, d'un mode d'habitat. Et c'est vrai que on associe le Meyerling, on va dire, à la fin du monde du 19e siècle. On pourrait tout aussi bien l'associer à la fin du monde bétonné dont nous avons hérité depuis, disons, l'après-guerre, mais qui malheureusement va continuer quand même, à mon avis, un petit moment. Disons que le Meyerling aura été dans son écroulement une sorte de précurseur de ce qui, j'espère, nous attend dans quelques années.
Parce qu'il y a un signe funeste qui marque les immeubles et les villes modernes au front avec vous. Je vous cite, les villes se droguent à la construction, les grues innombrables sont des seringues, le béton une drogue, plus la ville se pique, mieux elle se sent et pourtant c'est par là qu'elle meurt. Alors c'est quasiment millénariste.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est un spectacle, évidemment une ville ça vit, donc ça se démolit et ça se construit en même temps, et quand vous jetez un œil autour de vous, c'est un spectacle fascinant. Il faudrait pouvoir avoir une sorte de caméra panoramique qui rassemble les images d'un ensemble de quartiers de la ville et pouvoir se les projeter en accéléré pour voir l'existence de la ville. Donc elle grossit, elle pique, elle meurt, elle se détériore, elle se délabre, et puis on peut effectivement imaginer que les bétonnières produisent la drogue dont elle a besoin et que les grues construisent ce qui va la détruire.
Pas complètement.
Ah, je me souviens de quelqu'un qui avait dit que les hommes périssaient par leur ville comme les poissons pourrissent par leur tête. Je ne me souviens plus qui m'a dit ça, mais je me souviens très bien de quelqu'un qui a dit
ça. Ça recoupe assez votre vision, Bernard
Pierini. Oui, il y a un côté un peu rousseauiste là-dedans, et je me demande si ce n'est pas Gomez d'Avila qui a dit ça.
Voilà.
Il faudrait le vérifier. Ouais. Bon, oui, ça recoupe assez bien l'idée que je peux en avoir, oui.
Alors, l'immobilier, une drogue, le béton, une drogue qu'on s'injecte, avec les grues seringues, mais également, vous avez une vision très, je dirais, tératologique, biologique, monstrueuse des immeubles. Vous dites que ce sont des bêtes à gestation longue, et que non seulement l'homme ne maîtrise rien, mais en même temps, c'est la maison qui vous choisit. Je cite, on croit qu'on choisit son logement soigneusement, en fait, on s'en remet au hasard, on l'a visité une fois 10 minutes, une deuxième fois 20 minutes, on ne réclame jamais de dormir sur place ni d'y passer un week-end. Pour bien faire, il faudrait tester le lieu pendant plusieurs semaines, mais non, donc on achète sans savoir, parce que ce que l'on sait de l'immeuble, ça n'est pas l'essentiel. On est bien d'accord.
Non, mais c'est intéressant quand vous entrez dans un immeuble, en réalité, à moins que cet immeuble soit neuf, enfin vous entrez dans une vie vécue, donc vous vivez au milieu de toute une série de fantômes, et on va dire que c'est un peu mystique ou un peu magique, mais enfin je crois quand même assez à l'idée du génie des lieux et au fait qu'on laisse une trace, que les événements passés dans un endroit, ils laissent une trace et qu'il faut qu'on vive avec. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai aussi avec les immeubles neufs, ceux qui sortent sortes de terres, ce qu'on vient de construire, qui, en dépit du fait qu'ils sont a priori vierges, à mon avis, sont peut-être encore plus nocifs que ceux qui ont déjà été habités.
Oui, d'ailleurs, on a tendance souvent dans les romans d'horreur, entre autres, à utiliser le fameux cimetière indien sur lequel on a construit ce magnifique lotissement et tout. Bon, évidemment, dans la petite ville de Rouvières, au cœur de la France profonde, le cimetière indien, c'était un peu difficile. Mais on apprend quand même qu'il semble qu'il y ait eu des morts cachées. Donc, l'immeuble a bien été bâti quelque part sur
même
des morts.
Si, oui, même si l'immeuble est neuf, de toute façon, il est forcément construit quelque part à un endroit où, sauf à ce qu'on soit en Antarctique, un endroit où l'homme n'a jamais posé le pied, il s'est déjà passé des choses. Donc de toute façon, tous les lieux sont tentés par définition à partir du moment où ils ont été vécus.
L'affaire Meyerling de Bernard Quirini, notre invité, ou comment un groupe de propriétaires se soude au point et entre en guerre contre les méfaits sournois et de plus en plus violents commis par leur immeuble, la résidence Meyerling, rue Meyerling à Rouvières.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Alors le récit de cette affaire Meyerling, Bernard Quirini, nous est fait donc par deux personnages. Il y a le narrateur dont on ne saura pas qui il est, et puis l'autre qui est le spécialiste.
Son éternel acolyte.
L'acolyte Braque, qui est l'érudit, qui est le collectionneur, qui est l'homme qui procure en permanence allusion, documentation à toute l'histoire. Alors effectivement, dans le village évanoui, c'était une communauté villageoise à l'écart des villes et qui était brusquement mise sous cloche et qui ne pouvait, on pouvait ni sortir ni entrer dans la cloche. Le visage se disparaissait d'une certaine façon par cette espèce de confiscation singulière et qui était pratiquée. Là, c'est une autre forme de fantastique puisque, comme l'a dit Jean-Luc Rivera, à Rouvières, qui est une petite capitale provinciale avec tout ce qui va avec, on pourrait le dire, les lycées, les artères, le quartier commerçant, le centre-ville, l'historien local qui fait la bonne histoire de Rouvières qu'on imagine édité chez un éditeur régional. Donc là, vous campez un décor rassurant, consensuel, patrimonial, qu'on connaît bien, qu'on apprécie. Et puis, peu à peu, vous allez introduire dans tout cela eh bien, des dysfonctionnements, des lézardes et des parasitages avec cet endroit dont vous nous montrez l'histoire du lopin de terrain. Parce qu'au départ, c'est une maison Le Marquis, qui est une bonne illustration de l'habitat bourgeois. Après, c'est autre chose, ça devient un asile. Sous l'occupation, eh bien, la maison est occupée, est très sévèrement occupée. Et puis après, c'est une autre ère qui commence. Donc déjà, il y a l'histoire de l'emplacement du terrain, qui est une histoire chargée, où s'accumule d'une façon... Le lieu est chargé par l'histoire, un petit peu comme on est chargé, hanté par les maléfices.
Oui, c'est ça. Et je voulais, quand on construit un immeuble, quand les bétonnières arrivent, les grues et puis les ouvriers qui vous font sortir un immeuble de terre, une résidence de standing avec tout le confort moderne qu'on va vendre à des gens de la classe moyenne supérieure à des tarifs absolument délirants. Bon, on oublie que en dessous il y a un morceau de terrain sur lequel il y a eu une histoire pendant, et c'est toujours fascinant d'ailleurs quand vous consultez des photographies anciennes de voir ce qu'il y avait là avant. Et vous constatez que en fait ce qui vous paraît aller de soi, puisque c'est là que vous l'avez toujours vu, cet immeuble avec lequel vous avez grandi, qui occupe votre espace, qui l'envahit. En réalité, il aurait tout aussi bien pu ne pas être là, puisqu'avant, il ne l'était pas. Et voilà, cette succession de réalités à un même endroit, je la trouve fascinante. J'avais, et je ne désespère pas d'arriver à écrire un roman qui serait, c'en est l'affaire Mayerling une approximation, mais qui serait l'histoire d'un lieu. Sur Milan, par exemple, l'endroit où nous nous trouvons.
Un peu le syndrome d'Alan Moore.
Oui, bah, oui,
vous prenez un espace de la planète et vous descendez jusqu'à la préhistoire.
Une sorte de long carottage, voilà. Exactement, et en se positionnant, enfin, toujours cette espèce d'accélération du temps, et on pourrait, ne serait-ce qu'une série d'anecdotes. Que s'est-il passé le 1er janvier de tous les siècles, depuis l'an 1000 jusqu'à aujourd'hui, à cet endroit en particulier? Peut-être rien, mais enfin, peu importe, ça mérite quand même d'être raconté. Cette façon de voir les choses, me plaît bien, et d'une certaine manière, je l'ai un peu approché avec l'affaire Mayerling.
Alors vous additionnez, on peut dire, non pas sur la tête de l'immeuble, mais dans son sous-sol, toutes les particularités historiques les plus sombres, l'internement psychiatrique, disons à la Belle Époque, ce qui n'est pas forcément la meilleure période, la collaboration et l'occupation, une famille bourgeoise un peu légèrement décadente, en tout cas dont la dernière représentante est un personnage un peu trouble. Donc il y a véritablement une volonté d'épaissir le dossier dès le départ.
C'est ça, voilà, il y a des miasmes présents sur place. Mais je me rends compte en fait que d'un point de vue technique, je voulais simplement arriver à montrer la vie du terrain avant l'immeuble. Mmh. Et en réalité, je découvre que c'est peut-être une nécessité interne du genre, c'est-à-dire que il y a une forme de concession non lucide, non délibérée, si vous voulez, à cette tradition littéraire qui veut que c'est les cimetières indiens dont vous parliez tout à l'heure.
Ça, ouais.
L'endroit a été habité, il a été vécu, il s'est forcément passé quelque chose là pour que se passe ce qui va être raconté dans l'histoire. Je m'en rends compte à présent, et du coup, je suis éclairé sur le propre processus de la fabrication de mon livre.
Jean-Luc Rivera.
Oui, le lieu est chargé, mais ensuite, il faut que les gens qui vont y habiter soient réceptifs aux, qu'est-ce qu'on pourrait appeler, les ondes nocives, maléfiques, négatives qui peut y avoir. Et je dois dire que là, on est régalé par le choix des occupants de ces lieux. Et moi, ce qui m'a frappé quelque part, c'est que en fait, on a l'impression, telle que vous les décrivez, avant qu'ils n'emménagent, et ensuite ce qu'ils deviennent, la manière dont chacun ressent l'influence du Mayerling, c'est qu'en fait, ça ne fait qu'exacerber ce qu'ils n'osaient pas faire consciemment.
Oui, peut-être. Peut-être que ça ne fait en réalité que le Mayerling n'est qu'une sorte de révélateur, au fond, et qu'il ne les transforme pas.
Et d'amplificateur.
C'est tout à fait possible. Ce qui ferait pencher le livre du côté de l'aspect critique sociale, on va dire, plus que du côté fantastique, c'est possible.
En même temps, il y a quand même bien du fantastique.
Ah oui, sans problème. Du fantastique. D'ailleurs, avant que l'on parle des résidents, qui sont aussi des résistants et des dissidents, et qui entrent en opposition à leur immeuble, on peut quand même, il est nécessaire d'évoquer sa construction, puisque vous nous présentez avec beaucoup de précision et pittoresque ce qu'est l'univers de la promotion et de la construction immobilière dans une petite ville provinciale française, donc à Rouvières, avec les différentes firmes. Vous jouez beaucoup d'ailleurs sur les acronymes et sur les sigles des différentes firmes. Alors on voit apparaître les personnages, le promoteur, le conseiller immobilier, toutes ces figures. Mais l'adjudication va à la CFR, et ça n'est pas une maison du coin, c'est une maison lointaine, puisqu'elle est espagnole quand même.
Voilà, alors pourquoi les Espagnols, j'en sais rien.
Oui, là, la question se pose.
Ça permettait d'ajouter à peu de frais, si vous voulez, pour moi, d'un point de vue technique, un peu de mystère et d'inconnu. Voilà, on ne sait pas qui sont les gens qui viennent construire cet immeuble. C'est pas une de ces firmes locales. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elles ont toutes le même nom d'ailleurs.
Oui.
Enfin, à trois choses près. Il y a quatre syllabes, vous les mélangez, puis vous avez le nom des agences de promotion immobilière dans à peu près la Cogeprom, la je sais pas quoi. Enfin, vous mettez Prom, Co, Imo et vous les avez toutes. Il y a une sorte de poésie là-dedans, en fait. Ça va à CFR. Je ne sais pas d'ailleurs ce que veut dire CFR. J'ai emprunté le nom au livre d'Antoine Bello, vous savez, les producteurs producteurs et les falsificateurs qui avaient appelé ainsi le consortium de falsification du réel. Bon, un hommage discret à ces très bons livres de Bello. Bref, on ne sait pas qui sont ces Espagnols qui viennent construire l'immeuble, et puis une fois qu'ils l'ont construit d'ailleurs, ils s'en vont. Et ce qui fait qu'on ne sait pas qui est le coupable en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces monstrueux immeubles qui nous entourent, il y a quand même bien quelqu'un qui les a construits. Là, c'est difficile de mettre la main dessus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, jadis, on signait son forfait. C'est-à-dire que comme les immeubles étaient à peu près beaux et à peu près potables,
on sculptait le nom de l'architecte dans la façade.
On sculptait le nom de l'architecte. Et voilà, c'est une tradition qui s'est perdue. Et je pense que c'est parce que personne ne veut assumer la responsabilité des catastrophes qu'on nous fait sortir de terre. Je ne vois pas d'autre explication.
Comme tellement le Meyerling est peut-être une porte magique qui permet d'accéder aux enfers.
Je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée des constructeurs espagnols dont personne ne sait rien, je pense à un architecte espagnol de Paris, Ricardo Bofill, qui avait des constructions, en particulier à Cergy-Pontoise, ville, c'est le quartier de Saint-Christophe, qui est une espèce de zone aussi très très angoissante, là où il y a l'axe majeur. On n'en est pas loin pour moi. On n'est pas loin de créer une espèce de porte vers une dimension maléfique dans la banlieue de Paris.
Un accès à notre Ricardo sous-sol.
Ricardo Bofill, peut-être un personnage de roman intéressant.
On préfère Gaudi.
Un
mauvais genre. Alors, Jean-Luc Rivera disait que le Meyerling, d'une certaine façon, révélait, alors peut-être à ses résidents, eh bien, ce qu'ils étaient profondément, ou en définitive, ce dont ils avaient profondément peur, ou ce qu'ils redoutaient d'être. Alors, c'est le cas. Il y a notamment une Madame Camille, qui est une sympathique retraitée, enfin une femme d'un âge très très mûr, et qui devient nymphomane, avec brusquement, qui se met à tourner à la nymphomanie. D'autres personnes subissent des WC véritablement hantés. Un autre est assailli par le bruit de des colocataires. Il y a également des apparitions spectrales. Un couple se déchire à partir du moment où il est dans l'immeuble et se ressoude à partir du moment il s'en éloigne. Et un malheureux enfant qui n'avait rien demandé à personne devient caractériel, insupportable et en prédélinquance, et bien sûr sera purifié de tout cela à partir du moment où il aura quitté l'immeuble. Donc il y a vraiment dans le groupe, vous nous citez d'ailleurs tous les noms des propriétaires locataires avec leurs différences. Il y a un côté perquien presque.
Oui,
là.
Oui. Alors là, pour
l'enfer le fond, mode d'emploi, l'enfer immobilier mode d'emploi. Et donc là effectivement, vous les avez par département. Il y a des catégories de souffrance là véritablement.
Ouais. J'ai hésité en fait au début à verser complètement dans le fantastique. Je me suis posé la question de savoir s'il n'aurait pas été possible, en restant absolument réaliste et en se contentant de condenser, de collecter les innombrables nuisances que peut procurer la vie réelle en collectivité, c'est-à-dire les nuisances sonores, les nuisances olfactives, une espèce de promiscuité, le fait que quand vous vivez dans un appartement, aujourd'hui les cloisons sont tellement fines et l'insonorisation tellement exécrable que vous vivez avec vos voisins, il n'y a rien qui vous sépare d'eux. Ne pas verser dans le fantastique, c'est-à-dire ne pas recourir aux fantômes, ne pas recourir à... Et puis, en réalité, ça n'aurait pas permis d'aller assez loin. Mon imagination ne me permet pas... Peut-être que je n'ai pas une expérience suffisante de la vie en copropriété pour... Si je vivais dans un immeuble comme celui que je décris, j'aurais peut-être de quoi dire. Mais du coup, j'ai préféré charger la barque du fantastique et essayer de... marcher sur les deux pieds, c'est-à-dire des choses tout à fait vraisemblables, type avec le bruit, je pense que ça arrive à peu près tous les jours dans tous les immeubles, des gens que le bruit rend fou, et puis des choses un petit peu moins plausibles et qui nous amènent plus du côté de la tradition littéraire de la maison hantée pour le coup.
Alors il y a le bruit bien sûr, mais également les incursions. l'anguille. Un jour, rentrant chez eux, les Lekenek furent pris à la gorge par une odeur atroce. Ils se précipitèrent à la salle de bain et découvrirent un spectacle immonde. La baignoire, remplie d'une eau noire, gluante, fumait comme un bain chaud. À la surface se formaient des bulles. Madame Lekenek eut un haut-le-cœur. Elle dut sortir sur son balcon. Monsieur Lekenek contempla l'eau infâme, en se demandant par quelle magie le bouchon de la baignoire s'était mis en place tout seul pour la retenir jusqu'à leur arrivée. Le lendemain, Madame Lekenek, restée seule à la maison, découvrit une anguille dans la baignoire, morte. Voilà un exemple des nuisances que doivent subir les résidents du Meyerling. Alors là, ça va au-delà, puisqu'on est au-delà de la puanteur, du bruit, des malfaçons et d'une construction approximative et précaire. Là, on est carrément dans des intrusions d'animaux extérieurs qui deviennent quasiment, alors là, du monstrueux, une sorte de bête comme ça qui se faufile.
Oui, qu'on imagine assez bien passer dans les canalisations, mais à partir du moment où c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, des lycéens d'à côté qui viennent se réunir et fumer du cannabis dans le hall de votre immeuble, qui est toujours extraordinairement agréable, ou bien camper dans le local à poubelle ou que sais-je encore, bon, pourquoi pas autre chose, pourquoi pas une anguille qui s'insinuerait par les canalisations, pourquoi pas un chat mort que vous retrouvez là devant chez vous, enfin bon, toutes sortes de choses, tout est possible. Et ce qui est terrible dans un immeuble collectif, c'est que vous ne savez pas qui accuser parce que vous êtes 10, 20, 30 à vivre dedans. Si c'est chez vous et que vous êtes tout seul, bon bah voilà, vous pouvez accuser votre femme parce qu'il n'y a qu'elle. Si c'est un immeuble collectif, voilà, il y a 29 autres coupables autour de vous, qu'est-ce que vous faites? C'est extraordinairement angoissant. C'est ça qui est tétanisant, je trouve, et qui est un ressort d'action ou d'intrigue ou de mystère extrêmement puissant, c'est que virtuellement, dans un immeuble, tous vos voisins sont vos ennemis. Ou peuvent l'être, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il se trouve qu'à la fin, ils finissent par se souder, mais enfin, n'importe qui est susceptible d'être coupable, y compris la petite vieille du cinquième qui a l'air si gentille. Enfin bon, il y a dans un immeuble une configuration, un topos extraordinairement propice à la paranoïa, aux soupçons et du coup à la déréliction des rapports sociaux.
Frédéric Rivera, qui habite dans un immeuble.
Oui, mais j'avais eu le problème.
De tous ces problèmes.
Exempt de tous ces problèmes, fort heureusement. Ce qu'il y a d'intéressant, vous soulignez l'anonymat dans lequel peuvent se réfugier les coupables, mais même lorsqu'on peut les identifier, il n'y a rien à y faire. Entre la petite vieille dame qui est une amasseuse compulsive d'ordures et qui remplit son appartement, à partir du moment où elle ne répond pas quand on sonne chez elle, on ne peut pas faire grand-chose, ou les petits jeunes du quatrième étage qui passent leur temps à fumer et à faire des parties avec tous leurs copains. Vous soulignez d'ailleurs qu'avec c'est l'un des gros désavantages de la colocation, c'est que l'étudiant qui tout seul habiterait un minuscule studio et ne pourrait recevoir même pas 10 personnes, là comme ils sont 3, ils peuvent en recevoir 30.
Ah oui, voilà, ce qui est une grosse erreur des gens qui se disent il faut que j'achète un appartement dans une résidence luxueuse où il n'y aura pas de studio, parce que en réalité acheter un appartement dans une résidence où il n'y a pas de studio, c'est acheter un appartement dans une résidence où il peut y avoir de nombreux étudiants qui louent en colocation et qui du coup démultiplient les problèmes. Donc il y a là vous savez, ces décisions absurdes en réalité qui reposent sur une mauvaise information. Je crois qu'on en a un merveilleux exemple.
La porte ouvrait sur une pièce obscure, très chaude, étouffante même, où régnait une rumeur comme le ronronnement d'un gros moteur. À nos pieds, le plancher était en métal grillagé. Devant nous, une rambarde. On n'y voyait presque rien, et nous avons cru distinguer, derrière la rambarde, une tuyauterie compliquée. On dirait une énorme chaudière. Il n'y a pourtant pas le chauffage central à Meyerling. Des gouttes perlaient à nos fronts à cause de la chaleur. Qu'est-ce que cette machine infernale ? Voilà, c'est quand même au cœur de tout cela. On a évoqué les conséquences, on a évoqué l'histoire du lieu, les conséquences matérielles, les conséquences psychologiques et sociales sur les résidents et sur les habitants. Mais il y a quand même une arme noire, celle que je citais en ouverture d'émission, une arme noire et brûlante qui est tapie à l'intérieur de ça. Et là, je trouve que ça, c'est extrêmement fort et troublant, puisqu'on ne saura, on ne saura rien de cette arme noire, on ne saura rien de ce noyau central, de ce magma qui est tapis au cœur de la planète Mayerling.
Ouais, c'était une, je vais pas dire quelque chose qui m'a été inspiré parce que j'avais lu dans le roman de Ballard qui s'appelle IGH, immeuble de grande hauteur, mais enfin ça participe un peu du même de la même vision des choses. Il y a chez lui une sorte de biologisation, si vous voulez, des immeubles, c'est-à-dire il l'écrit, d'ailleurs je cite le passage dans le livre, il l'écrit qu'il voit les ascenseurs comme des espèces de globules qui parcourent les, enfin bon, c'est très très bien vu. Alors évidemment chez lui il y a une espèce de voilà de pouvoir d'imagination au sens de création d'image qui est absolument génial, et pour le coup, effectivement, doit bien y avoir une âme ou un cœur, enfin quelque chose qui a une corporéité, quelque chose de physique. C'est un peu ce que j'ai essayé de, comment dire, de suggérer ou de représenter à travers cette machine un peu bizarre, dont finalement on ne saura effectivement rien.
C'est ça, justement, c'est ça, c'est qu'on la voit de biais, enfin on la voit un petit peu par le.
Oui, dans l'ombre, au tournant du couloir, voilà, planquée dans la cave, derrière une porte dont on ne sait pas à quoi elle sert, enfin bon, tout ça est assez mystérieux. Sans doute l'architecte le sait-il, le créateur, le démiurge espagnol qui a conçu cette horreur qu'est l'immeuble. Mais les habitants, eux, n'en sauront rien. Alors, à défaut, ils n'ont plus qu'une chose à faire, c'est tout foutre par terre.
Alors, livré, si j'ose dire, non pas comme l'immeuble, l'appartement lui-même, mais au sein du livre, Bernard Quirini, au sein de cette affaire Mayerling chez Rivage, il y a une bibliothèque du fantastique immobilier très précieuse. On commence par Paul Guth, qui n'est quand même pas le Stephen King français, on est bien d'accord. Ensuite arrive évidemment notre maître à tous, Roland Topor, avec le locataire chimérique. No Comment, on connaît tous par cœur à la fois le roman et le film de Polanski. Ballard, alors là aussi, c'est vrai que Ballard a travaillé sur ces supercades, dans ces espèces de cités qui sont des cités fortins et à la fois sur des immeubles démentiels. Et puis un titre de Marcel Aimé que vous nous révélez un peu, puisqu'il est peu connu.
Oui, Maison Basse, qui est un très beau roman, un roman très curieux de Marcel Aimé, qui a une quantité de personnages absolument effarante et qui raconte un peu sur le même mode la vie des habitants d'un immeuble construit dans les... Je ne sais plus exactement de quand date le roman, dans les années 30, je crois, 30 ou 40, peut-être un petit peu plus tard, et qui eux aussi, alors c'est un roman extrêmement noir, extrêmement pessimiste, extrêmement sombre sur la vie urbaine et sur la... Comment dire, l'effacement et la dégradation des rapports sociaux dans la vie contemporaine en réalité. Et en face de cet immeuble dont il décrit la vie des habitants, il y a une petite maison traditionnelle, une maison ancienne qui, dans son esprit évidemment, représente, incarne, j'imagine en tout cas, un mode de vie plus traditionnel et quelque chose de plus incarné, quelque chose de plus humble, quelque chose de plus ordinaire, à quoi évidemment sa préférence. C'est un roman très très noir non seulement mélancolique mais profondément dépressif et qui m'a fait une forte impression. Je l'avais vu une première fois il y a de nombreuses années, il m'avait moins marqué parce que la quantité des personnages et la diversité des fils qu'ils tirent fait que l'ensemble peut paraître peut-être un peu effiloché, mais à la relecture je crois que c'est l'un de ses grands livres. Enfin, je considère que tous les livres de Marcel Aimé sont des grands livres, mais enfin parmi les grands livres, ouais. Un grand parmi les grands.
Tout s'achève par un affrontement généralisé, mais on n'en dira rien parce qu'il faut quand même réserver aux lecteurs que nous souhaitons nombreux la fiesta finale, c'est-à-dire la gigantomachie entre l'association secrète des résidents propriétaires et l'immeuble lui-même. L'affrontement va être extrêmement violent et radical, d'autant plus qu'effectivement cet immeuble a été construit un peu sur un cadavre aussi, puisque au tout début on assiste à la mort qui ne semble gêner personne, d'ailleurs d'un ouvrier du bâtiment qui tombe, qui disparaît sans que personne ne réagisse.
Oui, un grutier, ça me vient toujours à l'esprit quand je vois une grue. Mais qu'est-ce que se passerait-il si le grutier tombait? Il tombe de vachement haut quand même. Je pense que c'est suffisamment bien conçu pour qu'il ne tombe pas. Mais que se passerait-il s'il tombait? On s'en rendrait peut-être pas compte.
L'affaire Mayerling, Bernard Quirini, aux éditions Rivage. Jean-Luc Rivera, qui ne veut pas quitter Meyerling, qui a bien raison d'ailleurs.
Je ne veux pas quitter Meyerling pour un point encore qu'il faut préciser à nos auditeurs, c'est que d'une part, je trouve que c'est un roman extrêmement optimiste dans sa fin, et d'autre part, je tiens, si réhumanisation...
La scène finale est remarquable.
Et puis, surtout, ce que je voudrais souligner, c'est l'humour caustique de Bernard Quirini à travers tout le roman. C'est d'une drôlerie sans nom, même dans les scènes les plus épouvantables. On ne peut pas s'empêcher de sourire.
On termine cette émission avec quelques chroniques. La première, donc, du roman de Jean-Luc Marcastel, paru aux éditions Pygmalion, Un pape pour l'apocalypse, qui n'est pas tout à fait, pas comme Thielmont, mais qui ressemblerait presque.
Allez voir. Alors donc, nous quittons Rouvière pour rester malgré tout.
On ne quitte jamais Rouvière.
On ne quitte jamais
c'est comme
Rouvière.
Le village.
Et quand on quitte Rouvière, c'est pour continuer dans la France profonde et rejoindre Aurillac, est devenu le centre d'une ville qui est devenue le centre d'un complot extraordinaire. Donc, dans ce dernier roman de Jean-Luc Marcastel, Un pape pour l'apocalypse. Alors, comme tous nos auditeurs, bien entendu, le savent, Aurillac a la distinction d'avoir accueilli Gerbert, dit le pape de l'an 1000, donc l'un des plus grands savants de son temps et le premier pape français sous le nom de Sylvestre II. Et à notre époque, suite à une affaire de vol sur le chantier de fouille de l'abbaye Saint-Géraud, là où officier Gerbert, le commissaire Malo-Sinclair va enquêter. Et il ne s'agit pas de n'importe quel larcin, mais il s'agit du vol de la célébrissime tête parlante mécanique qui avait été mise au point par Gerbert et qui a été retrouvée. À partir de là, Aurillac, donc petite ville tranquille, va le devenir beaucoup moins. Et donc, le commissaire Sinclair va se retrouver plongé au cœur d'un complot millénaire qui est aussi passionnant que ravageur. Alors, cadavre à foison, énigme tout aussi foisonnante. On va suivre Malo et Albert, son fidèle assistant, dans une course-poursuite à travers toute l'Europe. Course-poursuite absolument effrénée et où Gerbert va prendre un rôle tout à fait inattendu par rapport à celui qu'on connaît. Alors, je vous en dis pas plus, là, Jean-Luc Marcastel, avec ce roman, nous donne un thriller ésotérique qui est tout imprégné de réalisme fantastique et d'esprit bergiresque comme on l'aime, avec en plus une équipe à la San Antonio Berrurier, vulgarité en moins et culture en plus. Donc, un beau roman.
Ah, un rêve. Donc, Jean-Luc Marcastel, c'est un pape pour l'apocalypse. Maintenant, nous passons au pape Pacôme, qui est venu...
Alors, moi, j'ai pas ma tête qui parle.
Nanti de des dernières productions musicales d'un groupe que l'on adore, donc le Secret Shift Trio, dont on écoute Pacôme, donc System of Antichrist.
Il y a un casino de pétrole au sommet du monde et dans ce casino, il y a une grande roulette. La maison négocie nos destins dans un monde aveuglé par le mirage Orient-Occident et le système de l'Antéchrist. Les enjeux sont hauts et les grands gagnants sont couronnés rois du monde par des chakravartis amateurs, l'un après l'autre, mais tout le monde sait que la maison gagne toujours dans le système de l'Antéchrist. Nulle part où aller, mais l'expérimentation transhumaniste de l'immortalité, soit la création d'un vampire, littéralement. Nous verrons ce que le dieu de la quantité aura à dire de ça, mais les horloges qui tournent à l'envers portent une nouvelle aube, une nouvelle lumière du jour, du même soleil mort, dans le système de l'Antéchrist. Bon, c'est pas de moi, c'est une traduction à la diable, vraiment à la diable complète, du poème qui accompagne ce morceau de Secret Shift 3. Alors, pour situer, Secret Chief 3, quoi, qui est un groupe qui existe depuis 1995, qui est dirigé
on
par...
On a reçu ici même. Interviewé son âme et son animateur.
Le très grand Trace Pruance. Là, depuis quelques années, a plus de mal à sortir ses disques, parce que ce qui, jusqu'à présent, finançait la sortie des albums, c'était les tournées. Maintenant, ils sont devenus tellement gourmands, ils font des musiques tellement complexes, tellement denses, que les tournées coûtent plus cher qu'elles n'en rapportent. Et donc, du coup, les nouveaux albums vont être financés à travers la mise en vente de morceaux sur Internet, des morceaux sur Bandcamp. Et ça, c'est un des premiers singles qui sortent sur Bandcamp. Mais alors, ils sont accompagnés d'un paquet de trucs. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a pas d'objet. C'est dématérialisé. Et ça, dans une interview, Spruance disait, pour un type comme moi de la génération X, sortir quelque chose et pas sortir un objet, ça fait bizarre. Donc, il sort sa musique, mais donc, il l'accompagne de beaucoup de choses. Donc là, le single System of Antéchrist, Bereshit sort. Mais quand on commande, et puis en plus, c'est évidemment, on met la somme qu'on veut, c'est des sortes de crowdfunding, tout ça. On commande le morceau sur Bandcamp et on met la somme qu'on veut. On reçoit pas seulement le morceau, mais on reçoit aussi des PDF remplis de notes, d'accompagnement, de choses. Et c'est extraordinaire parce que comme ils font une musique qui est d'une densité prodigieuse, le morceau qui accompagne System of Antéchrist, Bereshit, qui est un morceau qui a été monté, composé, monté, mixé, remixé sur des années avec plein de groupes différents, des systèmes différents, on commande Bereshit, mais on peut commander avec le pack. Qui est une espèce de pack de musical qui comprend des partitions, qui comprend des notes d'explication d'enregistrement, des notes d'explication de composition et aussi des pistes séparées si on veut écouter le travail des musiciens indépendamment. Donc on a une espèce de musique qui vient accompagner de son propre travail d'étude ou de son propre travail analytique.
Donc la production donc la dernière production du Secret Chief Trio.
Donc je vais vite pour terminer. Vous pouvez écouter ces morceaux-là sur Internet, vous pouvez les commander et ils servent à financer la sortie prochaine des albums Book of Souls Folio B et du premier disque du micro-groupe Holy Venom, du groupe Holy Venom, un des ensembles de Secret Chief 3. Voilà.
On parle maintenant de l'exposition d'Arnaud Baumann.
Total Baumann. Qu'est-ce que c'est Total Baumann? Total Baumann, c'est deux expositions en même temps. C'est double bill pour Arnaud Baumann. Arnaud Baumann, ce grand photographe qui a commencé dans les années 70 à Harakiri. Il travaillait avec son camarade de Lambourg. On les appelait les Lambeaux. Mais après, ils ont fait chacun une carrière séparée. Baumann a beaucoup fait de photos, beaucoup de portraits, énormément de portraits de à la fois de comédiens, musiciens pour Libération pendant 10 à 15 ans. Mais aussi de très grandes figures du siècle, l'âge du siècle, qui sont tous les espèces de grands penseurs, artistes, architectes, etc. Énormément de portraits. Mais Arnaud Baumann, quand il fait des photos, même de voitures ou d'animaux ou de villes, on a l'impression que c'est des portraits. C'est-à-dire qu'il arrive à sortir des têtes des choses. Et il arrive aussi à sortir tout un jeu d'ombre et de lumière qui leur révèle leur situation quasiment au sens de le moment de leur vie, le moment de tournant. Qu'est-ce qui va se passer pour une personne sa part d'ombre et sa part de lumière au moment, à l'instant T. On a ça dans les photos d'Arnaud Baumann. Donc, Total Baumann, c'est deux expositions, une rétrospective extraordinaire, plusieurs centaines de photos, hein. C'est un hangar gigantesque, le showroom du Marais.
Showroom du Marais, on donne la
C'est au 118 rue de Turenne. Et ça, c'est une expo très courte. Elle dure du 10 janvier au soir, vernissage, jusqu'au 13 janvier. En fait, les jours ouvrés, c'est 11, 12 et 13 janvier. Expo très courte dans un lieu immense. Et là, on a une rétrospective de toute l'œuvre de Baumann sur plusieurs étapes. 300 à 400 photos et on a des photos genre de Sean Connery, Dustin Hoffman, Depardieu, Isabelle Huppert, mais aussi toute une section Harakiri avec toutes les soirées d'Harakiri, une section la grande boîte des années 80, rappelez-moi son nom,
le palace,
toute une section des photos du palace,
le Meyerling,
voilà le Meyerling et les artistes peints, hein, tous les grands artistes de l'époque dont il a créé un système pour les photographier avec leurs propres œuvres, se dégageant de leurs propres œuvres qui est projeté sur leur visage au moment où les photographient, enfin un truc extraordinaire. Ça, c'est au showroom du Marais. Et pendant un mois, à partir de samedi et jusqu'au 3 février, dans la galerie Corinne Bonnet, Cité Artisanale, 63 rue Daguerre, Ombre et Lumière. Alors là, c'est une exposition beaucoup plus intimiste. Là, c'est pas 300 photos, c'est une vingtaine de photos. Et c'est l'œuvre de Baumann, mais dans son total Baumann, mais dans le sens de l'essence de Baumann. D'un côté, c'est dans le sens de la totalité de Baumann intégrale. De l'autre, c'est le sens de qu'est-ce qu'il y a de plus subtil dans l'œuvre de Baumann. Pour moi, Baumann, c'est un des plus grands photographes toujours. Enfin, c'est un de mes artistes préférés. Bon, c'est pas. J'en parle avec un enthousiasme comme ça, mais c'est ça depuis très longtemps, parce que dès son premier livre, Carnet d'adresses, que j'ai lu quand j'étais adolescent, qui était un recueil de nus, il y avait ce truc extraordinaire que quelle que soit la personne que Baumann photographie, elle se ressemble ni à elle-même, ni aux autres photos de Baumann. Elle ressemble déjà à une autre personne qui va être celle qui va tenir dans toute l'œuvre de Baumann. Elle finit par ressembler aux photos de Baumann. Baumann la photographie et après, la personne va finir par lui ressembler.
Expositions donc de Arnaud Baumann à Paris, dont l'une à partir du 10 janvier. C'est d'ailleurs le 10 janvier au soir que nous terminons notre grande exposition à Mon Seul Désir chez Agnès B. Tous les renseignements sur le site de l'émission. L'émission s'achève bien évidemment avec Christophe Beer.
Après Jeff de Wulff et Paul Ordner, Philippe Rousseau continue son exploration amoureuse de l'illustration populaire du XXe siècle. Noir Dessin, petite anthologie des illustrateurs de polar, est un vagabondage partial à travers plusieurs décennies de couvertures de romans policiers, depuis les précurseurs des fascicules bon marché à l'effervescence de l'entre-deux-guerres et jusqu'au renouveau noir des années 1950. Le collectionneur salue l'impact surréaliste des similigravures en couleur des Fantomas par Gino Staras, sens du mouvement échevelé, poésie mortuaire et non-tueuse s'agence dans une dramaturgie du paroxysme. Aux antipodes de cet art pompier, Jean Bernard fait entrer en 1927 la jeune collection Le Masque dans une modernité angoissée par son stylisme tranché. Ses personnages se figent en regards exorbités de peur, cernés par les ombres, mains blanches et carquillées surgissant de l'obscurité. Manquant de détails et de perspectives, les couvertures aux couleurs chaudes de la collection Police Secours par Louis-Félix Claudel, médaille d'or à l'exposition des arts décoratifs de 1925, intriguent par ses aplats et ses figures anguleuses. Très singulières sont celles de Roger Paris, publicitaire choisi par André Malraux, directeur artistique de la librairie Gallimard pour la collection Détective. Leur étrangeté vient de leur source photographique, modifiée par les effets d'une chambre noire, parfois floutée, enrichie de couleurs en superposition à dominante verte. Le cimetière des lépreux d'Édouard Le Tailleur acquiert ainsi l'aura d'un cauchemar glauque tapis derrière une tenture. La Tour de Londres propose des couvertures plastifiées et lavables qui préservent des intempéries les dessins de Jean-Pierre Jacques de Dixmude, réalisés à l'encre de Chine et à la plume. Les femmes fatales d'après-guerre envahissent les couvertures dans le sillage des films hollywoodiens qui déferlent sur les écrans. En fume-cigarette, robe fourreau et porte-jartelle, elles arpentent l'imaginaire de René Brantôme et Jeff de Wulff. Cyper réalise dans les spéciales polices du fleuve noir, grâce aux traits soignés de Michel Gourdon, qui s'inspire au plus près de ses collections de photos. On peut préférer la sensualité des frères Giordan, dont les pin-up en jambes de la collection Noir et Rouge des éditions marseillaises de la Tarente, très érotisée, joue sur un fétichisme fiévreux. Elle est assise dans un miroitement rouge sang et noir, poitrine érigée, cuisses nues savamment croisées, et nous fixe lascive, crânement indifférente. L'amateur de cette collection, dont la moitié fut interdite d'exposition et d'affichage, prend le titre à son compte. « Tu paieras de ta chair ».
Tu paieras de ta chair. C'est pas à vous que je m'adresse, rassurez-vous, Bernard Quirini. Merci en tout cas d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour cette affaire Meyerling, qu'il faut lire, toute affaire cessante, qui est parue aux éditions Rivage. Prochain livre envisagé
aux alentours de 2040.
Très bien, mais j'espère que nous serons là pour à la fois fêter nos 60 ans et vous recevoir également à mentionner donc Jean-Luc Marcastel, Un pape pour l'apocalypse, et les deux expositions Arnaud Baumann, et en fichier donc disponible sur internet, la musique du Secret Chief Trio. Et puis le 10 janvier, c'est la fin, c'est la grande fiesta finale pour notre exposition à Mon Seul Désir, rue Dieu à Paris, chez Agnès B, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Emmanuel Couturier, Céline Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Jean-Luc Rivera, Paco Mtielman, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain avec Benoît Tadier pour sa formidable histoire du polar, du polar américain, donc paru au PUF. Et d'ici là, bonsoir à tous. Stars signaling through the sky. God sings to me in reply. Ooh.
but I